Le secret de tout le monde.
Borges, le grand écrivain argentin, a écrit un petit conte sensationnel qui s'intitule « La secte du phénix ». Ça tient en 5 paragraphes, pas plus. Quelle est cette secte? On ne découvre que à la fin du conte, ou plutôt, on soupçonne, car ce n'est pas dit en clair, que cette secte, c'est l'humanité. Et que son secret tient tout entier dans une étrange pratique, un rite. Qu'est-ce que c'est un rite? C'est une action symbolisée qui comporte qu'on prête son corps au symbole. Et ce qu'on découvre dans ce texte, ce qu'on croit apercevoir à la fin, c'est que le rite de la secte qui est l'humanité, c'est le coït, la copulation. Le phénix, c'est le phallus qui renaît de ses cendres. L'acte sexuel consomme la disparition du phallus et puis, après un laps de temps plus ou moins grand, le phallus reparaît. Et ainsi, par le procédé littéraire, ce qui est le plus familier devient le plus étrange, devient énigmatique. Ce conte de Borges est pour moi le joyau de ses écrits. Il met en scène, comme souvent chez lui, une érudition canularesque, mais d'où se dégage une poésie. Pour accéder au savoir secret de cette secte, on n'a que des indices fragmentaires cueillis dans toutes les littératures, des indices décalés, éventuellement contradictoires, et Borges excelle dans l'évocation de ce savoir fragmentaire où il se mêle des vieilles chroniques, des systèmes de l'idéalisme allemand. Enfin, Borges avait beaucoup lu, mais surtout, il avait lu l'Encyclopédie britannique et il prélevait des fragments qui permettaient de faire allusion à la culture universelle et faire voir que le savoir est essentiellement morcelé, que le savoir ne fait pas un tout, que ce qu'on appelle le savoir, c'est un amas de débris. Et cette approche indirecte, par ce qu'on sait, ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit, convient à la notion même de la secte, en tant qu'elle se rassemble autour d'un savoir qui est secret, qui est un savoir sous un voile. L'existence d'une secte a pour effet de partager l'humanité en deux classes distinctes. Ceux qui savent, qui en sont, et ceux qui ne savent pas. Mais là, Borges va plus loin que cette division. Il se révèle dans son conte que les quelques-uns, en définitive, ne savent pas davantage que les autres. Et cela fait écho pour moi à une phrase du philosophe Hegel dans son Esthétique à propos de l'art égyptien. Les secrets des Égyptiens étaient des secrets pour les Égyptiens eux-mêmes. Et ce qui finit par émerger à la fin de ce texte, c'est que ceux que l'on nous a présentés comme les quelques-uns, les sectateurs, sont si nombreux qu'en définitive, ils sont tout le monde. L'humanité est comme une secte, rassemblée par un secret qu'elle protège mais qu'elle ne connaît pas elle-même. Il y a un savoir, mais on n'y a pas accès. On ne peut que faire l'acte sexuel. Deux grands versants du savoir ont occupé ceux que l'on appelle les occidentaux et que Lacan appelait les occidentés, le savoir grec et le savoir égyptien. Le savoir grec, c'est le savoir étalé, le savoir exposé dont le modèle est mathématique. Mais n'oublions pas que la mathématique elle-même a d'abord émergé comme le savoir d'une secte, la secte des mathématiciens. Ils s'isolaient de la cité pour pratiquer leur savoir. Il faut dire que c'est une secte qui a eu beaucoup de succès dans la civilisation. Et c'était une secte qui était orientée par un réel tout à fait nouveau à l'époque, très solide, qui reposait sur des démonstrations qui étaient exhibées en grande pompe sur de grands panneaux blancs. C'est comme ça que les mathématiques ont commencé. Et alors, là, vous n'avez plus rien à dire, c'est bouclé, tout est là, étalé. Puis de l'autre côté, il y a le savoir égyptien, le savoir mystérieux, celui qui est caché dans des écrits, et on doit supposer d'abord qu'il y ait, pour y aller voir de plus près, et essayer de le déchiffrer, c'est-à-dire de remplacer un certain nombre de signes par d'autres qui ont une chance de pouvoir dire quelque chose pour vous. Le savoir grec, le savoir égyptien sont à l'opposé. D'un côté, le mathème, l'essence du mathématique, de l'autre côté, le mystère. Le mystère est pour quelques-uns, pour une secte, le mathème est pour tous, pour l'humanité. Un Voltaire, par exemple, ne jurait que par les mathématiques. Il dit dans son article « Secte » du dictionnaire philosophique « Il n'y a point de secte en géométrie. On ne dit point un euclidien, un archimédien. Quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il élève des partis et des factions. Jamais on a disputé s'il fait jour à midi. » C'est évidemment une naïveté. On peut parfaitement disputer la question de savoir s'il fait jour à midi. Et en plus, il n'y a pas la géométrie, comme on pouvait encore l'écrire au XVIIIe siècle. Il y a des géométries. Mais le comte de Borghès fait une objection à Voltaire. C'est que même s'il y a les mathématiques, il reste un mystère qui est pour tous et qui ne pourra jamais être mathématisé, et c'est le mystère du sexe. Alors la psychanalyse là-dedans, eh bien, elle est partagée, elle est écartelée entre le grec et l'égyptien. D'un côté, le savoir de l'inconscient est de type égyptien, dans la mesure où il est à décrypter, et on sait la fascination de Freud pour l'art de l'ancienne Égypte. Et de l'autre côté, la référence essentielle de Freud, c'est le discours scientifique. Il réaffirme l'appartenance de la psychanalyse au discours scientifique. Il veut que le réel de l'inconscient puisse être attesté comme valable dans le discours scientifique. Et ça, c'est le grand écart, c'est la grande douleur de la psychanalyse entre mystère et mathème. Et c'est aussi ce qui fait que les psychanalystes continuent de penser ce à quoi ils ont affaire. Dans le conte de Borghès, la secte dont il s'agit est introduite par les livres, par les on-dit, et puis progressivement, elle perd toute particularité. Les gens du secret, comme ils les appellent, ne sont pas comme les gitans, ni non plus comme les juifs. Ils se confondent avec les autres hommes, comme le prouve le fait qu'ils n'ont pas été persécutés. Il n'y a guère de groupe humain où ne figurent des partisans du phénix. Ils n'ont pas de livres sacrés, pas de mémoire commune, pas de langue à eux, mais seulement un rite. Là, je vais lire quelques phrases. J'ai compulsé les rapports des voyageurs. J'ai conversé avec des patriarches et des théologiens. Je peux certifier que l'observance du rite est la seule pratique religieuse des sectaires. Le rite constitue le secret. Celui-ci se transmet de génération en génération, mais l'usage veut qu'il ne soit enseigné aux enfants ni par leur mère ni par des prêtres. L'acte en soi est banal, momentané, et ne réclame pas de description. Il n'y a pas de temple consacré spécialement à la célébration de ce culte, mais des ruines, une cave ou un vestibule sont considérés comme des lieux propices. Le secret est sacré, mais il n'en est pas moins un peu ridicule. L'exercice en est furtif et même clandestin, et ses adeptes n'en parlent pas. Cela date de l'après-guerre. Il n'existe pas de mot honnête pour le nommer, mais il est sous-entendu que tous les mots le désignent, ou plutôt qu'ils y font inévitablement allusion. Et voilà le dernier paragraphe. « J'ai mérité dans trois continents l'amitié de nombreux dévots du Phénix. Je suis persuadé que le secret au début leur parut banal, pénible et vulgaire, et ce qui est encore plus étrange, incroyable. Ils ne voulaient pas admettre que leurs ancêtres se fussent rabaissés à de semblables manèges. Il est étrange que le secret ne soit pas perdu depuis longtemps. Malgré les vicissitudes du globe, malgré les guerres et les exodes, il arrive terriblement à tous les fidèles. Quelqu'un n'a pas hésité à affirmer qu'il est devenu instinct. » Alors le tour de force de ce texte, c'est de rendre le coït, l'acte sexuel, énigmatique. Le texte reste allusif, il est lui-même à décrypter, il est fait pour qu'on se demande de quoi il s'agit, quelle est la référence. Une note de la Pléiade signale que dans un entretien, Borges a mangé le morceau. Il a dit une fois, « La première fois que j'ai entendu parler de cet acte, quand j'étais petit garçon, j'ai été scandalisé à l'idée que mon père et ma mère l'avaient accompli. C'était une découverte stupéfiante, non. Mais on peut dire que c'est un acte d'immortalité, un rite d'immortalité, n'est-ce pas ? Si on y réfléchit, dans ce texte, l'Argentin pousse jusqu'à sa limite l'esprit des Lumières, l'esprit voltairien, jusqu'au point où le réel, tout rationnel qu'il soit, se retourne en fantastique. L'esprit des Lumières a d'abord été de formuler qu'il y a des coutumes, qu'il n'y a pas que notre façon de faire, qu'il y en a d'autres, que les coutumes sont essentiellement diverses selon les peuples, selon les traditions, que l'humanité se partage entre elles, et que le fait que ces coutumes sont multiples et ces croyances sont multiples montre que les nôtres, comme les autres, ne sont que des semblants, qu'elles n'ont pas un fondement nécessaire, que ce sont des inventions et qu'il s'agit de choisir l'invention la meilleure, celle qui fait le moins mal à cette humanité. La question des Lumières, c'est celle de Montesquieu. Comment peut-on être persan ? C'est la question que pose celui qui adhère tellement aux coutumes de son temps, de son peuple, qu'il ne peut plus saisir pourquoi l'autre fait autrement. Et il s'en étonne. C'est la question qui traduit le sentiment d'étrangeté qui peut saisir devant les coutumes et les croyances de l'étranger. Eh bien, dans ce petit conte de Borges, c'est l'humanité elle-même qui devient étrange pour elle-même. Comment peut-on être homme ? Et comment peut-on être homme, femme ? Au niveau du coït, c'est la condition humaine qui elle-même en vient à paraître énigmatique. Comment se fait-il qu'on se livre à quelque chose d'aussi incroyable que ce qu'on appelle poétiquement faire l'amour ? Mais rapporter ça à une secte, présenter l'acte sexuel à partir de la notion de la secte, c'est indiquer qu'il y a quelque chose du sexe qui reste toujours un secret. Même lorsque ce secret s'étale sur les murs, même lorsqu'il est vociféré, comme ça arrive de nos jours. Et c'est pourquoi l'humanité peut être, de ce point de vue-là, décrite tout entière comme une secte. C'est là le paradoxe qui anime ce texte. En matière de sexualité, chacun se comporte comme s'il avait à cacher son secret à tous, alors que c'est le secret de tous. Et c'est bien pourquoi c'est un texte qui est de l'époque de la psychanalyse. La sexualité est un secret que tous pratiquent et cela reste pourtant un secret pour chacun. Quelque chose reste invinciblement secret, voilé, absent dans la relation sexuelle. Et c'est ce que montre ce conte, où l'acte sexuel est accompli comme un rite, c'est-à-dire sans savoir ce qu'il signifie. Et c'est de toute la littérature le texte le plus remarquable, le plus exquis pour mettre en scène ce que veut dire le non-rapport sexuel. La dernière phrase dit du rite « Quelqu'un n'a pas hésité à affirmer qu'il est devenu instinctif. » C'est que l'instinct est par excellence ce que l'on fait sans savoir pourquoi. Dans cette perspective, le temps devient problématique. Borges est d'ailleurs l'auteur d'un texte qui s'appelle « Nouvelle réfutation du temps ». Et ce qui réfute le temps, c'est la répétition. Ce qui triomphe du temps et qui renaît avec la puissance de l'encore, encore une fois, c'est le phallus, c'est la célébration du rite sexuel, du secret sexuel fermé à ses propres sectateurs. Et c'est pourquoi on cherche toujours à en apprendre davantage sur ce secret. Dans le texte auquel je faisais allusion, cet autre texte de Borges qui s'appelle « La nouvelle réfutation du temps », on trouve cette phrase. Ne suffit-il pas de la répétition d'un seul terme pour disloquer et confondre toute l'histoire du monde, pour faire apparaître que cette histoire n'existe pas? Eh bien, le terme unique qui se répète et qui disloque l'histoire du monde, qui fait apparaître qu'il n'y a pas d'histoire du monde, c'est le rite sexuel. Le coït, l'acte sexuel, a en lui la puissance d'annuler l'histoire du monde. Et sur lui converge la nature et la culture, et il donne accès, comme à un point à l'infini, où les deux ordres parallèles se rejoignent, et dans le secret, hors savoir. C'est bien ici, à ce propos, que l'on peut dire la grande parole: pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.